Marchande de sable, le conte des conteurs de Nasser Remir, troisième épisode. Sur la plage, il y avait une petite cabane, et dans la cabane, un vieillard à barbe blanche qui me dit « Où étais-tu passé, mon fils ? À peine ai-je commencé mon récit que tu as disparu. » Je lui racontais tout, du début jusqu'à la fin. Et pour appuyer mon histoire, je lui offris le reste de mes dattes. Il y mangeait et jetait les noyaux, une fois à gauche, une fois à droite. Puis, il continua ainsi. On raconte qu'un marchand était parti en voyage vers une ville lointaine. À son retour, à midi, il s'assit à l'ombre d'un groupe de palmiers et sortit de son sac une poignée de dattes. Il les mangeait et jetait les noyaux, une fois à gauche, une fois à droite. Il n'avait pas terminé qu'un tourbillon monta vers le ciel et se transforma en un magnifique génie blanc de vieillesse. Il dit au marchand « Lève-toi que je te tue comme tu as tué mon fils !» Le marchand se prosterna à ses pieds et se lamenta « Comment aurais-je pu tuer ton fils ?» Je ne l'ai jamais rencontré. N'est-ce pas toi qui mangeais des dattes et jetais les noyaux ? C'est un de tes noyaux qui l'a tué. » Alors le marchand dit à l'Ifrite : « Ô Seigneur, laisse-moi apprendre mon sort au mien. Permets-moi de donner à qui de droit son droit, et je reviendrai dans une année, jour pour jour. Alors tu feras de moi ce que tu voudras. Dieu m'est témoin. » Le génie le laissa partir. Il revint vers les siens. Il leur révéla son malheur et se défit de toutes ses attaches. À la fin de l'année, son linceul sous le bras, il fit ses adieux et retourna attendre le génie à l'ombre du groupe de palmiers. À peine installé, il vit arriver un vieillard à barbe blanche, traînant une gazelle derrière lui. Il lui disait « Avance, ma cousine ! Avance, ma cousine !» Il s'arrêta et s'adressa au marchand. « Que fais-tu dans cet endroit infesté de mauvais génies ? T'arrivera malheur ! » !»« Mon malheur est déjà fait !» Et le marchand raconta son histoire du début jusqu'à la fin. Alors le vieillard, maître de la gazelle, décida d'attendre à ses côtés pour connaître la suite de l'histoire. Soudain, ils virent arriver un deuxième vieillard à barbe blanche, traînant à ses côtés deux lévriers noirs. Il leur disait « Avancez, mes frères ! Avancez, mes frères !» Il posa la même question, entendit la même réponse et s'assit à leur côté quand un troisième vieillard arriva, traînant une mule couleur des tourneaux. Il lui disait « Avance, ma femme ! Avance, ma femme !» Et il s'installa auprès d'eux. Soudain, un tourbillon monta vers le ciel et prit la forme du génie blanc de vieillesse. Il leva son sabre et dit au marchand « Lève-toi, que je te tue comme tu as tué mon fils !» Mais le vieillard maître de la gazelle se leva, lui embrassa les mains et les pieds et dit « Ô génie ! Si je te raconte mon histoire avec cette gazelle, et si tu en es émerveillé, me feras-tu grâce du tiers du sang de ce marchand ?» Et le génie accepta. À cet instant, le vent s'est mis à souffler sur la cabane. Le vieillard à barbe blanche s'est arrêté de parler. Il s'est tourné vers moi. « Reviens demain. » Beaucoup de temps s'est écoulé avant que je ne retourne sur la plage, devant la petite cabane. Le vieillard était toujours là. Je voulais savoir pourquoi il était devenu conteur. Il commença ainsi. Aussi loin que je me souvienne, mon grand-père avait 7 filles, qui lui donnèrent chacune 7 petits-enfants. Il en choisit un à qui léguait tout son art, son savoir. Pour cet héritier, il mit des années à confectionner le plus long des tissages jamais imaginé dans toute la contrée. Ce tissage, c'était ma mémoire, et ce petit-fils, c'était moi. J'étais destiné à devenir maître tisserand. Mon grand-père avait déjà adopté un orphelin, Hassan, le fils du Malim Lakhtar. Il était de 3 ans mon aîné. De lui, j'ai tout appris. On était comme 2 frères, seule la nuit nous séparait. Le vendredi, pendant que les hommes priaient à la grande mosquée, Hassan et moi allions nous promener dans les jardins autour de Bagdad. Mais un vendredi, Hassan, pour la première fois, voulut faire la sieste. Il rentra à la maison, traversa la cour ensoleillée, poussa la porte de la petite chambre, puis ferma les yeux. Il se réveilla en fredonnant un chant comme un appel. Depuis ce jour-là, je me promenais seule dans les jardins et chaque vendredi, Hassan rentrait à la maison faire la sieste. Le soir, à son réveil, il ajoutait un nouveau couplet à ce chant envoûtant. Pendant le sommeil, dit le vieillard à barbe blanche, l'âme s'en va courir deux montures, le temps et l'espace. Elle ne revient que grâce au fil invisible qu'elle laisse attaché au poignet du dormeur. Mais si, par mégarde ou par malheur, quelqu'un le réveille, le fil se casse et l'âme se met à errer. Un vendredi, comme d'habitude, Hassan est rentré. Il a traversé la cour ensoleillée, poussé la porte de la petite chambre, baissé les tentures, installé deux coussins et préparé au sommeil, il a fermé les yeux. C'était un jour de grande chaleur. Le repas était déjà prêt, alors ma grand-mère l'a appelé. « Hassan ! Hassan !» Comme il ne répondait pas, elle s'est approchée et gentiment, elle l'a secoué. Hassan a ouvert les deux yeux comme un désert immense. Depuis ce temps, il est resté prostré, la nuit comme le jour. La grand-mère, le grand-père, les voisins, les voisines, tous amenèrent qui un devin, qui un médecin. Mais Hassan était, pour notre malheur, devenu un dormeur éveillé. Moi, j'ai quitté les ateliers. Je déambulais dans les rues et j'apprenais patiemment son chant. Je le répétais inlassablement, car je savais qu'il était le chemin qui menait à l'âme de Hassan. Jusqu'au jour où j'ai rencontré le vieux derviche. Je l'ai trouvé sur une place, la barbe rousse, la robe aussi. Il racontait l'histoire de Hassan de Samarcande. Hassan, disait le derviche, était apprenti teinturier. De sa grand-mère, il avait hérité une petite maison. Deux pièces superposées et une lucarne d'où il voyait pousser comme une fontaine un figuier au milieu de la cour carrée. Or, un jour où il ne travaillait pas, il s'endormit à l'ombre du figuier. À peine eut-il fermé les yeux qu'il rêva d'un vieillard à barbe blanche qui lui disait « Hassan, mon fils, tu es jeune, tu es brave, va à Bagdad. À Bagdad, il y a un pont et sur le pont un figuier. À l'ombre du figuier, un mendiant et sous le mendiant, un trésor. Va, ce trésor est pour toi. » Et Hassan se réveilla, troublé. Pour oublier le rêve, il se promena et le songe se dissipa dans les jardins de Samarcande. Mais Hassan fit plusieurs jours le même rêve du vieillard à barbe blanche qui lui disait « Va à Bagdad ». Alors il abandonna sa maison. Il se joignit à une caravane de marchands et après un long périple, il arriva enfin à Bagdad. Il entra dans la ville, encore tout blanc de la poussière de la route. Il chercha et trouva le pont. Sur le pont, il y avait comme un arbre. C'était un figuier. Sous le figuier, le mendiant. « Grand-père, pousse-toi !» dit Hassan. « Si tu me laisses creuser à ta place, je te donnerai la moitié du trésor. » Et le mendiant lui demanda avec un sourire. « Comment sais-tu qu'il y a là un trésor ?» Hassan lui raconta son rêve et le mendiant dit. « Chaque jour, à l'heure où s'estompent les pas sur les ponts de Bagdad, je m'assoupis, je fais toujours le même rêve d'un vieillard à barbe blanche qui me dit « Lève-toi, va à Samarcande. Là-bas, il y a une petite maison, dans la cour carrée, un figuier, et au pied du figuier, un trésor. » Et moi, je n'aurais jamais quitté l'ombre de mon figuier, même pour un trésor à Samarcande. Hassan le salua et prit le chemin du retour. Il arriva dans sa maison et au pied du figuier se mit à creuser. Il trouva le trésor dont le mendiant avait rêvé. Mais ce que personne ne sait, dit le derviche, c'est quel trésor il avait trouvé. Je m'approchai de lui et lui racontai mon histoire. Je l'ai guidé vers la maison en lui chantant la complainte. Ton frère est en grand danger, dit-il. Dans la chambre de la maison, il lui a pris les mains et Hassan a fredonné son chant comme un appel. Il a même rajouté un couplet. Le derviche s'est tourné vers mon grand-père et lui a dit « Ton fils est captif d'une adolescente au fond d'une cour où s'élance un figuier comme une fontaine. » Avant de quitter la maison, il s'est arrêté sur le seuil et a murmuré dans un souffle « Bientôt la mort, déguisée en mendiant, viendra le chercher. Pour l'empêcher de rentrer, il suffit de partager avec elle ton dîner. » Le deuxième jour, à la tombée de la nuit, un mendiant frappa à la porte. Sans un mot, mon grand-père est sorti partager son dîner avec lui. Ses rendez-vous répétés avec la mort ont fini par le blanchir. Pendant ce temps, ma grand-mère cherchait. Elle enfilait les cours comme des perles, et un jour, elle finit par trouver le figuier, la cour et l'adolescente. Elle rapporta la nouvelle à la maison, et l'on décida de la demander en mariage pour Hassan. Le père de l'adolescente était le fils d'un grand joaillier, qui à sa mort lui avait légué une fortune immense. Mais le temps, les mauvais compagnons, l'oisiveté avaient tout englouti. Resté seul et sans bien, il se réfugia dans l'oubli du narguilé. Mon grand-père alla le voir et le trouva dans son fumoir au bout de son jardin. Il lui raconta l'histoire de Hassan, du début jusqu'à la fin. Perdu dans son nuage de fumée, l'homme ne semblait même pas l'entendre. À la fin de la journée, il se retourna et dit « Ma fille est encore jeune. J'ai décidé de la donner en mariage à celui qui me rapporterait l'histoire de l'homme qui regretta là où le regret ne sert plus à rien. » Sur le chemin du retour, mon grand-père ne savait s'il fallait se réjouir ou s'attrister. Il était troublé par ce fumeur qui donnait sa fille pour une histoire. « Quelle histoire ?» demanda ma grand-mère. « L'histoire de l'homme qui, il n'avait pas terminé, que la mort frappa à la porte. Alors il prit son dîner et alla le partager sur le seuil. » Le soir même, grand-mère invita les voisines et ensemble, elles firent le tour de tous les contes. Elles les égrenèrent un à un, toute la nuit, sans trouver l'ombre de l'homme qui. Pendant un mois, les femmes remuèrent la ville, puis ciel et terre. Elles prenaient à cœur Hassan et son malheur, mais personne ne connaissait l'histoire. Et le père de l'adolescente resta de marbre devant le désir de toutes les femmes de la ville.